vraiment dans les débuts, il y avait toujours un héros jeune,
une héroïne,
la fille du savant,
ou
qui était enlevée par des extraterrestres affreux. Et puis, il y avait encore une fois tous les fantasmes de l'époque, mais ça passait d'une façon assez naïve dans l'ensemble, à part quelques auteurs qui émergent. Je t'assure, je sais pas si t'as déjà lu les pulps de l'époque, les Astounding, etc. Tu verras, c'est rigolo. C'est une littérature qui va avec la littérature policière, un peu, disons, cheap, avec le western cheap aussi, tu vois, et puis la presse du cœur. Tout ça, ça forme un... Ben si, c'était dans le même...
La radio s'appelle Radio Cheap, si vous savez.
Ouais, mais c'était ça en fait, tu vois, c'était le truc bon marché. Chip, ça veut dire bon marché.
Eh les gars, vous m'entendez? Suivez-moi vers le trou, on fiche le camp d'ici.
Reçu, mon vieux, on est derrière toi. Vous avez vu? Ils envoient leur tank à nos trousses.
À l'intérieur des tanks, en effet, les chefs de char recevaient les ordres furieux de Sartre.
Rattrapez-les, vous entendez? Vous serez tous envoyés au néant si vous voulez laisser partir. Compris?
Accélérez les gars, ça chauffe derrière nous. Dire que lorsque j'étais de l'autre côté de l'écran, je m'amusais quand même petit fou avec ce jeu. Tout paraissait si facile.
De l'autre côté? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Rien. Accélérez, je crois qu'on va passer.
On va parler avec Jean Giraud,
alias Moebius,
plus connu sous le nom de Moebius. Alors Jean Giraud, c'est l'auteur de Blueberry. C'est également quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans Métal Hurlant. Qui a aussi beaucoup participé au tournage de Tron, enfin en tout cas au niveau graphique.
De Alien aussi.
Et de Alien.
Et il a aussi réalisé enfin Les Maîtres du Temps avec la Loupe. T'as l'intention de continuer à faire des films comme ça?
Mais bon, on m'a demandé.
Ouais. Pour les deux?
Ah oui, oui.
Et t'as accepté tout de suite ou tu t'es demandé?
Oh non, j'ai toujours refusé. Le seul truc sur lequel j'ai vraiment accepté assez vite, c'est le seul truc qui s'est pas fait, c'est Dune.
Avec ça, je sais.
Et puis malheureusement,
j'ai vu des tas de dessins.
Ouais. Et là, c'était vraiment extra. Non, mais c'était extra aussi avec les autres. Ce qu'il y a, c'est qu'on est venu me demander, tu vois, puis en général, je disais, oh non, c'est pas possible, trop de travail. Là, dernièrement, on m'a encore demandé.
Mais
là, j'ai pas pu.
Ouais. Est-ce que tu es intervenu par exemple, dans certains scénarios pour je pense, en particulier, ça pourrait être Tron, mais je pensais plutôt à Les Maîtres du Temps.
C'est-à-dire que j'avais...
Il y avait
un bouquin. Alors, le bouquin a été adapté par Manchette, Patrick Manchette, qui est écrivain de policier, qui dirige une collection de science-fiction, entre parenthèses. Et donc, il a fait l'adaptation pour le cinéma. Cette adaptation, j'en ai fait un storyboard avec René Laloux. Alors, il se sent qu'en faisant le storyboard, il y avait des idées qui se précisaient, d'autres qu'on est lagué, et puis des choses qui se modifiaient. Enfin, tu vois, c'était une certaine façon de participer au scénario. C'était la même chose sur Tron. Sur Tron, je suis arrivé, il y avait un scénario qui était écrit. Il y avait des tas de séquences qui étaient suggérées comme ça par quelques mots. Il fallait les inventer plan par plan. Donc, d'une certaine façon, j'ai participer au scénario.
C'est toi qui a inventé aussi le vaisseau papillon, là.
C'est-à-dire que le metteur en scène me l'avait réservé. Il m'a dit, ce matin, on commence le vaisseau solaire. Mm-hmm. Alors, j'ai fait « Ah !» J'ai pris mon papier, mon crayon, puis j'ai commencé à chercher. Il m'a dit « Ah non, c'est moi ce que je vois, un truc comme ça. » Alors, j'ai fait ce qu'il me demandait. Et puis, au fur et à mesure que je faisais ce qu'il me demandait, je trouvais c'était bien, mais alors je trouvais d'autres idées, et puis j'ai commencé à... Ça vient sous le crayon, ces trucs-là. Mm-hmm. C'est difficile à expliquer. Et puis, j'ai été lui porter le résultat de mes petits crayons, puis ça l'a branché. Alors, j'ai approché le truc plus précis, j'ai continué à chercher. Le lendemain, j'ai recommencé, etc. Puis en 2-3 jours, le truc était fait.
Mais tu travaillais avec les ordinateurs ou bien...
Ah non, moi j'ai pas travaillé avec les ordinateurs.
Mais tes dessins étaient retouchés.
Le croiseur, le porte-avions, c'est toi ou c'est...
Non, non, c'est Sid Mead qui lui, c'est vraiment, lui, qui a fait les décors de Blade Runner.
C'est super fort.
Mais non, moi j'ai pas travaillé avec les ordinateurs. J'ai fait des dessins et après ce sont les techniciens. Tiens, j'ai fait les dessins, mais j'ai fait après des des interprétations de mes dessins d'une façon plus précise. C'est-à-dire j'ai fait un plan, j'ai fait un profil, j'ai fait une vue de face, un peu comme si je faisais des plans d'une maison.
D'accord.
C'était super simple, il y avait les proportions et puis le truc assez précis quand même. Ce qui fait qu'après, il suffit de donner ces informations-là à l'ordinateur, c'est-à-dire les trois dimensions, face,
devant,
derrière,
côté, profondeur, côté,
voilà, dessus, dessous, côté gauche. Hein.
Et puis on voyait la tête de tous les côtés.
Ah non, c'est uniquement pour l'engin, ça.
Ah bon,
pour l'engin,
pour le
voilier solaire. Et il y a eu la même chose avec le gros porte-avions. Et puis avec les tanks, avec les cabines à l'intérieur. Et
puis les petites motos, là.
Voilà, les motos aussi.
Ouais.
Alors tout ça, c'est l'ordinateur qui les a... Et puis également le recognizer, tu vois, le grand portique, le portique volant.
Tu es coriace, Tron !
Bien plus encore, ça ! Je suis meilleur que vous !
À son tour, Tron lance à son disque. Avec une telle précision et une telle violence que Sark ne put rien faire pour éviter le coup. Le disque s'enfonça profondément dans son front, le combattant s'effondra sur le sol. Pour la première fois, n'ayant rien perdu de la scène, le maître programme connut la peur.
Sark, lève-toi. Tous mes pouvoirs sont maintenant en toi. Va et anéantis ce programme.
C'est comme si E.T. Disait aux enfants et je vais vraiment vous faire un cadeau, je vais vous faire un film. Et qu'est-ce qu'il va faire comme Tron. Cadeau, il va faire Tron.
Ah ouais,
il va pas faire E.T.
Parce que c'est
tu comprends
ouais, d'accord.
C'est, parce que Tron, c'est vraiment un film d'extraterrestre.
Ouais.
Alors qu'E.T., c'est un film hyper terrien. Sur un extraterrestre.
Oui. À la limite, Tron, ça peut être la vision des extraterrestres.
Alors, vous êtes tous des extraterrestres, quoi.
Comment ?
Vous êtes tous des extraterrestres, ceux qui sont.
Ah, ben, un peu, oui. C'est vrai que. Mais même aussi. Spielberg, il a un côté. C'est pas vraiment qu'il est extraterrestre, Spielberg, mais il est très humain, mais on sent que c'est un humain qui a certainement vu ou contacté, ou été contacté par des extraterrestres. C'est pas possible, tu vois. Il a trop de. Il a trop de préoccupations de ce côté-là pour que ça vienne.
Oui, déjà
ça,
avec Rencontre du troisième type.
Ah, oui. Voilà. Et puis j'ai lu un peu une bio sur lui. Il paraît que déjà quand il était à l'université, il rêvait de faire un truc comme ça.
Il avait fait.
Ouais, c'est ça. Mais je te dis, tu sais, les extraterrestres sont super puissants. Hein. Moi, je suis persuadé qu'ils existent. D'abord,
oui,
j'ai vu les ovnis dans le ciel en pagaille. J'ai beaucoup d'amis qui en ont vu aussi. Ma mère, elle a vu un vaisseau. Elle a vu un vaisseau une fois.
Vu des petits bleus. Mais je sais pas si. Je me souvenais plus si c'était un rêve ou si c'était la réalité. Parce que je.
Peu importe,
je crois de toute façon, à partir du moment où on est intéressé par la SF, on finit par croire à ce genre de choses.
Non, mais je crois pas. Parce que. Au contraire, il y a des gens qui s'intéressent à la SF et puis qui sont super contre les ovnis et tous ces trucs-là. Ils sont plutôt technologie, rationnelle, etc. C'est quand même, je crois que tu as assez raison. Si on s'intéresse à la science-fiction, c'est que on est quand même déjà touché par un désir de contacter un peu le cosmos et on se sent plus terrien que national, tu vois.
Ouais.
Tu vois.
Moi, je plus me humain.
Ouais, plus humain que français ou blanc ou américain ou européen, tu vois. Moi, d'une certaine façon, je me sens très souvent plus comme l'habitant de la planète Terre que l'habitant de mon quartier ou de mon village ou du pays, tu vois. Ça n'empêche pas qu'effectivement, j'utilise la langue française et j'ai une culture française, je suis français. Bon. Mais quand même, j'ai aussi cet aspect-là, tu vois. On peut être les deux d'ailleurs, on peut être en même temps bien dans sa famille et puis bien dans sa ville, dans son quartier, dans son pays, puis dans sa planète, hein. Mais je suis persuadé que les extraterrestres, ils peuvent pas tellement nous contacter comme ça en venant nous voir parce que ils se feront entrer dedans immédiatement. Les gouvernements seraient absolument terrifiés d'avoir ce problème-là sur les bras en plus.
Puis ils agiraient sûrement mal.
Comment ?
Ils agiraient mal.
Qui ça ?
Les gouvernements.
Ah, très très mal.
C'est
parce que
hostile.
Mais oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la planète Terre, elle a des emmerdements, mais en même temps, les hommes sont extrêmement orgueilleux d'être des hommes à l'heure actuelle. Tu vois, il y a ce qu'on appelle une civilisation humaniste. Mais humaniste, c'est comme communiste, sauf que s'il y a humain dedans, au lieu de commun. Mmh. Tu vois, donc on ne le met pas en commun, mais l'humanisme, c'est la glorification de l'homme. Et tout ce qui est extérieur à l'homme est rejeté. Tu vois, c'est-à-dire que si, par exemple, il y avait des extraterrestres qui arrivaient, toute la pensée humaniste se révolterait d'une façon complètement convulsive en disant on veut s'en sortir nous-mêmes.
Les animaux,
on ne veut devoir rien à personne. Mm-hmm. Tu vois? Et alors si vous venez, même si vous avez des bons conseils à nous donner, vous gardez pour vous et puis laissez-nous nous démerder.
T'as une idée? Oui, bah garde-la pour toi.
Vous
apportez
pas votre technologie merdique là.
Ouais. Et surtout que qu'est-ce que c'est que le message des extraterrestres si tu regardes les histoires de gens qui ont été contactés par les vaisseaux, par les ovnis, trucs comme ça. C'est quoi? C'est des trucs bêtes comme chou. C'est aimez-vous.
Vous tapez pas dessus.
Ouais, soyez un peu plus raisonnable. Tu sais des trucs.
Passé un truc comme ça sur notre planète, alors je peux vous en parler. Parce qu'il y a, des trucs, c'est des extraterrestres qui viennent pour sauver les humains parce que sur leur planète, ils ont été détruits, alors ils viennent et puis ils font une sorte d'arche de Noé.
C'est pas les enfants d'Icare, non?
Quoi, non? Mais j'ai vu ça en bande dessinée plusieurs fois, à plusieurs reprises.
Ah oui, bien sûr.
Dans les petits magazines comme Air Comprimé ou des
magazines. Ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, on a fait même un truc où c'est un extraterrestre qui veut sauver un exemplaire de l'espèce humaine.
Ouais.
Et il le contacte mentalement. Et le type, il est sous. Il est sous, c'est la veille, le soleil va sauter, enfin un truc comme ça. Et il est complètement sous, et le mec, il les envoie chier royalement. Et les extraterrestres sont vachement vexés.
C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que les extraterrestres, en fait, ils peuvent pas nous contacter, donc, comme je te disais, mais ils sont quand même pas idiots. S'ils sont capables de traverser la galaxie en vaisseau, tu penses bien qu'ils vont pas avoir la bêtise de contacter un poivreau. Ils vont plutôt contacter des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde, tu vois, qui ont des pensées pas trop englouties, qui ont des pensées pas trop moches. Tu vois, des gens qui ont encore le sens du merveilleux, tu vois, qui rêvent encore, qui ne sont pas complètement préoccupés de leurs petites affaires à eux, de leur histoire, de leur village ou de leur pays, tu vois, ou de leur société, ou de leur boîte, tu vois, commerciale, n'importe quoi. Mm-hmm. Ils vont vers des artistes, ils vont vers des gens qui sont des enfants, ils vont vers les gens qui ont l'esprit libre.
Ou même ils peuvent aller vers des gens qui sont forcément qui sont, ça se trouve, des ouvriers, gens qui sont un peu préoccupés par leur petit bonheur.
Voilà.
C'est un peu ce qui se passe dans la rencontre du troisième.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est des mecs.
C'est vrai.
Le type, c'est
pour eux, en général, ils les contactent, ces gens-là, d'une façon spectaculaire, en apparaissant avec des vaisseaux, avec des trucs, des lumières, des choses comme ça, et des trucs très spectaculaires. Alors là, ça c'est parce que quelqu'un qui est tellement pris dans sa vie de tous les jours, sa vie domestique, qu'il n'a plus la possibilité de rêver, mais qui au fond de lui, tout au fond, même derrière les couches, tu vois, de protection, reste un petit enfant. Alors, il suffit de lui montrer un spectacle merveilleux.
Ça fait sauter toute la couche.
Tous les trucs. Alors qu'il y a des gens, même ça, ça fera rien sauter du tout. Mais disons que pour vraiment, moi j'ai lu des bouquins de gens qui ont été contactés, et la plupart du temps ce sont des contacts qui sont télépathiques, tu vois, ou par le rêve, ou c'est des enfants qui font comme Spielberg, c'est des enfants qui rêvent, qui ont des visions la nuit, une nuit comme ça, quelque chose qui leur traverse l'esprit, et après ça les habite toute leur vie. C'est comme ça qu'ils arrivent peu à peu à communiquer des choses. Moi, j'en suis sûr. Et je suis sûr que d'une certaine façon, moi qui vous cause, j'ai dû être contacté à un moment quelconque par un truc comme ça. C'est pas possible. Comment se fait-il que d'un seul coup, je me sois mis à faire de la science-fiction?
Programme Tron pour communication. Est-ce que tu me reçois?
Je vous reçois, Alan.
Je suis en train de créer une nouvelle information sur ton disque. Une information qui mettra fin au pouvoir illimité du maître programme. Tu dois introduire le disque dans le canal d'entrée du maître programme lui-même. Ce sera dangereux. Sache que si tu échoues, nous ne pourrons plus jamais communiquer. Va maintenant.
Allez, viens. N'aie pas peur. Ils sont partis. Approche. Approche. Viens. 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 Tu sais parler? Tu comprends parler? Moi, humain, garçon, Elio.
Il y a des gens comme ça, ils trouvent des histoires. Hop, et puis d'un seul coup, ils voient comment ça va finir, comment ça va être un peu au milieu et au début. Ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux dans ma vie. Tu vois, alors après, on n'a plus qu'à organiser le sens général de ce qu'on a trouvé. Mais moi, c'est pas comme ça que je fais. Je commence un dessin sans me préoccuper de ce qu'il va y avoir après. Tu vois, je me dis, bon, bah, en général, une histoire, ça commence, il y a quelqu'un qui arrive, c'est de la science-fiction, il y a un vaisseau qui arrive sur une planète, par exemple, tu vois. Alors, hop, je fais mon vaisseau qui arrive sur une planète. Et puis, pendant que je dessine la planète, hein, avec les petits points, les petits traits, que je fais le vaisseau, les petits hublots et tout, eh ben, il y a mon cerveau qui travaille, je sens qu'il va falloir arriver bientôt à la deuxième image. Alors, la deuxième image, tu sais, on sait plus ou moins, on voit qui est à l'intérieur du vaisseau. Alors, je me dis, bon, bah, je vais faire un bonhomme assis sur un fauteuil. Alors, je ne sais toujours pas ce qu'il va y avoir après, mais enfin, le temps que je fasse le bonhomme dans son fauteuil, ça va m'occuper. Et puis, l'histoire avance, tu vois. Alors, après, je dessine le bonhomme. Et puis, en dessinant le bonhomme, tu sais, j'essaye de le faire beau, et puis, en fin de compte, je n'y arrive pas et je le fais laid. Tu vois, parce que j'ai voulu aller trop vite, et puis en fin de compte, on verra bien ce que ça donnera. On est libre, on fait hop, il est là, il est moche, il a un gros pif. Il est... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que ce type-là dans un vaisseau qui a franchi une planète? Qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Bah, qu'il tombe sur une planète où tout le monde est beau, par exemple, tu vois, où tout le monde est laid. Alors, il va se trouver beau, puisqu'il était laid, mais en fait, comme tout le monde est laid, tout le monde est beau. Alors, voilà, tu vois, c'est comme ça que les histoires arrivent. Je l'ai inventé au fur et à mesure que je le racontais, mais c'est au fur et à mesure qu'on dessine, les trucs se font, tu vois, c'est très rigolo.
Lentement, Kevin Flynn approcha ses yeux de l'écran du terminal. Là, derrière, il le savait maintenant, il y avait tout un monde. Un monde désormais libéré. Un monde étonnant, où la vie électronique avait étrangement le goût de la vie.
Je vais passer le micro à ma copine qui va interviewer Guillaume, qui est un garçon qui habite au Québec. Et puis, bon, elle va l'interviewer, puis elle va vous en parler. Puis après, ce sera à moi de vous parler de l'interviewer sur les habitants du pôle Nord.
Bonjour Guillaume, alors, quel âge as-tu ?
10 ans.
Et où tu vis, hein ?
Au Québec.
Et comment on vit là-bas ?
Comme ici.
C'est pareil.
Ben, quasiment.
Et comment c'est les magasins là-bas ?
Plus moderne qu'ici.
Et pour s'habiller ?
Comme ici.
Et les transports, c'est pareil ?
Non, il y a plus de Jeep.
Ah, de Jeep, ok. Et les trains, c'est pareil ?
Non.
Ah, d'accord. Et question, les saisons ?
Ben, il y a plus d'hiver.
Il y a plus d'hiver. Et qu'est-ce que t'appelles d'hiver?
Ben, l'hiver, il fait fret, il y a de la neige.
Ça neige beaucoup, hein?
Oui, tout le temps.
Et ça fait combien minimum?
Moins 50.
Oh là là, c'est vraiment froid, hein? Et le plus?
Plus 50.
D'accord. Bon, ben, tu nous as un petit peu parlé du Québec. Or, maintenant, je vais passer la parole à Elsa, qui va vous parler des gens qui habitent au pôle Nord. C'est ça, Elsa ?
Oui, c'est ça. Bon, alors, je crois que les gens qui habitent au pôle Nord s'appellent des Inuits.
Oui.
Faut pas dire des Esquimaux, parce que c'est pas très gentil de notre part.
Oui.
Mais alors, je voudrais savoir un peu comment ils vivent. Je crois qu'ils se nourrissent aussi beaucoup de la pêche et de la chasse.
Oui.
Et je crois non plus qu'il n'y a pas beaucoup de légumes.
Non.
Et il y a beaucoup de magasins dans les villages et des choses comme ça, hein.
Ben, maximum, il y en a 2 par village.
Il y a combien d'habitants?
À peu près 500 ou 600.
Par village, non?
Oui.
Et il y a ils cultivent pas, hein?
Non. Ils se nourrissent soit des magasins ou bien de la chasse.
Et qu'est-ce qu'ils chassent comme animaux et qu'est-ce qu'ils pêchent comme animaux?
Ils chassent des phoques, du morse.
C'est quoi le morse?
C'est comme un phoque qui pèse 2 tonnes. Ouh, puis il y a des grandes défenses.
Il y a des grandes défenses et c'est de l'ivoire les défenses?
Oui.
Et qu'est-ce qu'ils pêchent?
Ils pêchent de l'hyralopique.
C'est quoi l'hyralopique? L'hyralopique,
en fait,
c'est pas
comment
tu dis.
Ben, c'est une truite saumonée.
C'est-à-dire, c'est une truite qui a goût de saumon, c'est ça?
Oui.
Et puis, il y a aussi, je crois, le problème du jour et de la nuit. Il y a 6 mois le jour, 6 mois la nuit.
Oui.
Comment ils font?
Ben, pendant l'été, ils restent quasiment tout le temps debout. Pendant l'hiver, ils restent quasiment tout le temps dans le lit.
Ils dorment, ils essaient de dormir. Et quand ils dorment pas la nuit, comment ils font? Ils ont des bougies, ils ont...
Ou des lanternes. Des lanternes ou des lampes de poche.
Et leurs maisons, comment elles sont? C'est des cabanes en bois?
Oui, des toutes petites cabanes en bois.
Ça fait longtemps qu'il y a ça, parce que je me rappelle, il y a pas longtemps, on disait qu'il y avait des igloos, c'est vrai ça?
Quand ils partent à la chasse, pendant l'hiver, ils font des igloos, mais dans les villages, là, il y a pas un igloo. Même pas de temps.
C'est embêtant ou c'est en...
C'est le fun, parce que... Il y a pas de jouets, là, mais on se fait des petits bateaux. C'est... Ouais. On fait plein d'affaires.
Ouais. Et alors, toi, comment t'es allé au pôle Nord, toi? Comment t'as...
En avion.
En avion. Il y a des pistes d'atterrissage là-bas.
Oui.
Et est-ce qu'il y a des transports aussi?
Des transports? Oui, ben oui, des voitures.
Des jeeps aussi, pareil?
Oui, juste des jeeps.
Et est-ce qu'il y a le train, non? Le train,
non.
Le métro, non, il y a pas. Donc, il y a seulement des avions qui...
Oui.
Et les voitures.
Et des bateaux.
Et des bateaux aussi, ouais.
Oui.
Il y a des ports, donc, c'est...
Il y a un port par village.
Un port par village?
Oui.
Ah, quand même. Tous les villages sont près de la mer ou c'est
oui.
aussi... Non.
Tous les villages sont près de la
voilà.
mer.
Bon, bah merci Guillaume, tu nous as un petit peu parlé du Québec, on te remercie.
Ce bip-bip, c'est la voix de la petite sœur de la Terre. C'est la voix de la première planète fabriquée par les hommes. C'est la voix de la fusée cosmique lancée par les Russes le deuxième jour de l'année 1959. Le 4 janvier, à 4 heures du matin, la fusée passait dans la banlieue de la Lune. La banlieue de la Lune, c'est-à-dire à 7500 km de la planète, à peu près 400 000 km de la Terre. La fusée allait trop vite, elle ne pouvait s'arrêter sur la Lune. Maintenant, la fusée tourne. Elle tourne autour du Soleil, comme la Terre, comme Mars. Elle est devenue la 10e planète du système solaire. Pour atteindre ce résultat, les Russes ont dû mettre au point un moteur capable d'emmener 1500 kg, le poids d'une camionnette, à des centaines de milliers de kilomètres. La puissance de ce moteur a été évaluée à 40 millions de chevaux, 10 millions de petites 4 chevaux. C'est grâce à ce moteur, le plus puissant jamais réalisé au monde, que la fusée a pu s'arracher à l'attraction terrestre et filer à 11 km 200 à la seconde vers les espaces interplanétaires. Dans le match cosmique engagé entre les Russes et les Américains, les Russes ont maintenant l'avantage. Le dernier point marqué par les Américains, c'était SCORE, un satellite de 4 tonnes envoyé le 19 décembre de Cap Canaveral, la gare de l'espace américaine. SCORE, en tournant autour de la Terre, ne faisait pas bip-bip. SCORE souhaitait joyeux Noël aux Américains. À chaque fois que SCORE passait au-dessus des États-Unis, un magnétophone se mettait en marche et diffusait...
Radio. Eh bien, je suis à Beaubourg. C'est 3 jours avant l'ouverture de l'exposition L'Espace. C'est pas tout à fait terminé. Il y a toujours l'exposition en construction. Là, je vais demander des gens qu'est-ce qu'ils pensent que ça va être.
Je vois une base de colonnes avec un premier tambour et puis des rideaux bleus.
Et c'est quoi qui est marqué sur les colonnes?
Alors là, je suis un petit peu miro, espace, avec un E rouge.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est l'espace hein?
C'est pas tout à fait ça, ça fait un petit peu cloisonné pour un espace,
ouais.
Pour une idée d'espace.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est votre idée de l'espace hein?
Bah, je sais pas, ça serait plutôt de l'autre côté pour moi. C'est une radio libre. C'est quoi comme...
C'est un radio qui est fait par des jeunes de 6 à 18 ans.
Mais j'ai plus de 18 ans.
T'as plus de 18 ans, mais c'est pas grave, je peux t'interviewer quand même. Hein.
D'accord.
Alors, décris-moi ce que tu vois là.
Alors, ce que je vois devant moi,
ouais.
C'est une jolie fille avec des cheveux blanches.
Non, mais là-bas.
C'est pour les auditeurs, comme ça ils sauront qui leur parle.
Ah d'accord, c'est gentil.
Et des yeux bleus.
Merci.
Puis un type qui est en trou ici. Bien. Un méchant monsieur en uniforme.
On y va en bas, ok. La lanterne, on termine cette interview en vitesse.
À part ça, bon, bah, je vois pas grand chose en fait, beaucoup de couleurs.
Beaucoup de couleurs bleues.
Bleu, bleu foncé, bleu clair.
Ouais.
Une espèce de cône dentelé, quoi. En haut.
Et qu'est-ce qui est marqué
avec
dessus?
Espace.
Alors pour vous, qu'est-ce que c'est l'espace?
Qu'est-ce que c'est l'espace? Ouais. Espace en 3 dimensions.
En 3 dimensions?
Ouais. En 4 même.
Ouais, bon. Ça devient compliqué là.
Non, l'espace, c'est la navette spatiale américaine. L'espace, c'est. Le futur, c'est demain. C'est les planètes à découvrir, l'avenir de l'humanité, quoi. Et voilà, pour moi, ce que veut dire espace.
Bah, étant donné ce que je vois, ça me fait penser à l'espace architectural et à l'espace interstellaire. Les deux en même temps. Je sais pas comment l'un et l'autre s'inscrivent, je sais pas. Ça peut être l'architecture interstellaire, je sais pas.
Ben, on voit une sorte de lancement de fusée.
Ouais.
L'image même de la maquette là.
Ouais.
Avec en dessous les sortes de turbos.
Ouais. Et qu'est-ce qui est marqué dessous là?
En dessous là?
Non, dessous là-haut.
Espace.
Et pour vous, qu'est-ce que c'est l'espace?
Ben, c'est relatif, hein. Pour moi, l'espace. Il n'y a pas que le fait d'aller voir la Lune et de revenir, ou bien, c'est pas moi de faire les héros comme les astronautes. Pour moi, l'espace, c'est plus complet que ça.
C'est quoi alors?
C'est à la fois tout un ensemble de richesses et de choses à découvrir, de mystères, un tout quoi, qui dépasse l'individu. C'est, partant de là, ça fait rêver. Pour moi, c'est un monde de rêve, quoi, l'espace.
Au micro, Léon Giffraud. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct du forum du Centre Georges Pompidou, où vous allez assister au décollage de la fusée Espace 83. Je dois dire que cette fusée est d'un genre totalement nouveau. Son aspect témoigne d'un sens mesuré des aspirations modernes, et tente ainsi de créer un lien, mais oui, avec la tradition culturelle de notre monde occidental. Nous sommes en face de cette fusée qui a une hauteur d'environ 30 mètres. De l'endroit où je suis placé, je n'en vois qu'un tiers à peu près. Le reste se perd dans le ciel. La largeur de l'engin est d'environ 7 mètres. Les cannelures qui recouvrent les parois joignent l'utile à l'agréable. Elles assurent par exemple une meilleure pénétration dans l'eau. La fusée repose sur 4 vérins articulés en fonte d'aluminium. Ils permettent à la machine de se déplacer en marchant en grade et facilitent son atterrissage. 4 moteurs, de puissance sensiblement égale, serviront tout à l'heure à arracher l'engin du sol. Dans un souci d'humanisation des engins spatiaux, on pénètre à l'intérieur par un petit escalier à vis situé entre les rêves. L'équipage est maintenant tout prêt de partir pour l'extraordinaire aventure. Garelette extraordinaire. Autour de moi, la fusée va s'élever. Eh bien, mesdames et messieurs, ce qui se passe est incompréhensible. C'est une catastrophe. Or, voici qu'apparaît sur le fameux affichage du mot photo. Il va y avoir photo pour analyser les causes de ce faux départ. Et en attendant, je vous rends l'antenne, ici Léon Dupont, qui vous parlait du centre public.
Excusez-moi, monsieur Péjard, est-ce que je peux vous poser quelques questions?
Oui.
Alors, je voudrais savoir, c'est vous qui avez fait la conception de l'exposition, c'est ça?
Oui.
Et ça vous a pris combien de temps?
Environ 6 mois.
Et est-ce que vous êtes content avec les résultats?
Je suis plus mal placé pour en parler, hein. Moi, je trouve ça rigolo, je sais pas. Le problème, c'est de demander aux gens, moi, j'ai pas d'avis là-dessus.
Mais c'est moi, vous qui a quand même, dit ce qu'il allait avoir dans l'exposition.
Ah oui, totalement, ça c'est même un peu imposé. On a une idée précise sur une exposition. Donc sur ce qu'on veut qu'elle soit, et on essaye de faire en sorte que ça ressemble à ça le plus possible.
Et comment avez-vous fait le choix entre tous les définitions, les thèmes différents qu'il peut y avoir avec le mot espace,
hein? On n'a pas fait de choix, c'est l'idée de l'expo, c'est qu'on a montré que c'était un mot qui voulait dire plein de choses, que quand on demandait à un architecte ce qu'il appelait l'espace, c'était pas la même chose que quand on demandait à un astronaute, par exemple, voilà. Donc on a essayé de respecter tout ça et même de mélanger, par exemple, l'architecte et l'astronaute en faisant la colonne qui est le centre de l'exposition.
C'est super. Et vous jouez les jeux vidéo, vous?
Moi, je joue, oui, certains, bien sûr.
Et vous jouez bien?
Ça dépend lesquels. Il y en a un ou deux, oui. Pac-Man joue très bien, comme tout le monde. Je joue très bien à Star Riders. Et puis les autres, ça dépend. On joue très facilement à tous les jeux. Il suffit de jouer un petit peu, c'est facile.
Lentement, Kevin Flynn approcha ses yeux de l'écran du terminal. Là, derrière, il le savait maintenant, il y avait tout un monde. Un monde désormais libéré. Un monde étonnant, où la vie électronique avait étrangement le goût de la vie.
Ah non, il m'est très familier parce que mon métier m'oblige à m'occuper d'espace, justement. Je suis le responsable pédagogique du musée de l'air et de l'espace.
Alors, en quoi consiste votre métier?
Alors, mon métier consiste à présenter les collections du musée de l'air et de l'espace, principalement aux scolaires, de tous âges, depuis les cours élémentaires jusqu'aux facultés.
Alors, c'est tout mieux parce que Radio Chip est une radio de moins de 18 ans.
Alors, en effet, vous devriez venir faire un tour au musée de l'air et de l'espace.
Oui,
les deux expositions, si j'ai bien compris, sont très différentes. Car ici, vous présentez la Terre comme un véhicule spatial. Ce qui, d'ailleurs, est tout à fait exact. La Terre est un véhicule spatial. Et il faut faire très attention de ne pas perturber son équilibre. Sinon, nous risquerions de nous trouver devant de grosses difficultés. Et au musée de l'air, au contraire, nous présentons des appareils qui ont été utilisés par les Américains, par les Soviétiques et par les Français, d'ailleurs, pour explorer cet espace. Donc les deux expositions sont complémentaires, à mon avis. Première impression, car je n'ai pas encore eu le temps de tout voir.
Et l'utilisation de l'ordinateur, qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, très honnêtement, je ne connais pas.
Flying a shorter, faster route, Voyager 1 was launched 2 weeks later than its twin and arrived at Jupiter 4 months earlier. In their encounters with the Jovian system last year, the two Voyagers returned more than 33,000 pictures of Jupiter and the Galilean satellites, volcanic Io, ice-encrusted Europa. Ganymede, the largest satellite. And ancient Callisto, the most heavily cratered body known in our solar system. Both voyagers, which will return more than 70,000 pictures of the distant planets to Earth, will pass beyond the edge of the solar system by 1990 and fly on into the vastness of interstellar space.
Qu'est-ce que vous jouez là?
Je joue du royaume.
Du royaume? C'est quoi?
Il faut savoir... C'est économique. Il faut savoir vendre et acheter des terrains pour pas affamer une population.
Et vous en vendez beaucoup?
Ça dépend du contexte. Pour l'instant, je réussis pas très bien. J'ai déjà affamé 99 personnes. Je réessaye.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'exposition?
C'est très bien.
C'est très bien? Ouais. Ça vous plaît?
Beaucoup.
Et qu'est-ce que vous préférez?
Les démonstrations d'ordinateur.
Qu'est-ce que vous jouez là?
Je sais pas du tout.
Et vous y arrivez?
Là, le premier jeu, c'est d'essayer de savoir à quoi je pourrais bien jouer là. Pour commencer.
Ah d'accord.
Voilà, vous voyez là, un espèce de machin qui passe.
Oh.
Il faut savoir lire et très très vite. Nous allons vous poser 28 questions sur les télécommunications. À chaque question, 5 réponses. Donc, si vous avez fait votre choix, tapez sur le clavier un chiffre correspondant à l'ordinateur.
Tron vit que le géant commençait à tituber. Alors, sans hésiter, il jeta de toutes ses forces son disque dans le canal d'accès du maître programme. Et soudain, ce fut l'explosion. Le gigantesque maître programme était en train de se dissoudre, tandis que Sark disparaissait lentement en une gerbe d'étincelles blanches. Quelques minutes plus tard, le maître programme n'existait plus.
Nous avons réussi.
Oui, Flynn.
Oh, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a sauté au cœur du maître programme et a réussi à le distraire juste assez longtemps pour te permettre de lancer ton disque. Est-ce que tu penses qu'il sait que nous avons gagné?
Regardez, mes amis. Regardez. Toutes les lumières reviennent dans la cité. Notre monde est libre désormais. Libre. Oh.
Que Flynn soit avec nous pour voir ça.
Je suis sûr que maintenant, il sait que nous avons réussi. Et un jour, il reprendra contact avec nous.
D'apporter sa contribution au projet de Beaubourg sur l'espace qui aura lieu le 18 mai, l'équipe de Chip Radio s'est embarquée à bord de la fusée de Hergé. Elle a pour mission d'explorer l'espace. Après de multiples affrontements avec divers martiens et toutes les aventures que vous avez pu entendre la semaine dernière à la même heure, elle atterrit en panne de carburant sur une planète mystérieuse nommée Chip. Que va-t-il leur arriver? Que va-t-il advenir de nos héros? Vous allez le découvrir maintenant en écoutant notre épisode intitulé « Danger mortel ».
Allô, Chip, ici la Terre. Ici la Terre. Me recevez-vous? Parlez.
La Terre, nous vous recevons 5 sur 5.
Chip, nous sommes inquiets, nous n'avions pas de vos nouvelles depuis longtemps. Que vous est-il arrivé? Êtes-vous tous en bonne santé?
Oui, on est en super santé, on est sur la planète Chip et c'est vraiment merveilleux ici.
Bon, d'accord. Alors, nous vous demandons simplement de nous raconter tout ce qui se passe et de ne rien omettre.
Eh bien, c'est super sur la planète Chip. On a rencontré deux super martiens. Un qui s'appelle Glouk.
Glouk, c'est moi, oui.
Et un qui s'appelle Schnook.
Oui, je m'appelle Schnook.
Alors là, on est dans le métro. On est avec Didier et Glouk et Schnook. Alors le métro ici, c'est pas tout à fait pareil que le métro sur la Terre. Parce qu'il y a c'est fait en des tuyaux très 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 hauts dans l'espace un peu. Et puis les wagons, ils volent.
Et très très silencieux.
Oui, il n'y a aucun bruit, sauf ça résonne un petit peu.
Toutes les lignes sont directes.
Ouais, et puis c'est vraiment sympa parce qu'il y a plein du soleil, donc on a vraiment l'impression d'être dehors.
Et puis les couloirs sont bons pour l'acoustique, pour la musique. Parce qu'il y a plein de joueurs de musique dans les couloirs du métro sur
ouais.
Chip.
Et puis quand les tuyaux ils montent trop, tu peux t'accrocher à un truc sur le mur, puis ça te monte, c'est même pas la peine de marcher.
Non, ça c'est bien aussi.
Ça c'est super.
En plus, il est gratuit, mais ils mettent des portillons pour que les gens puissent sauter pour rester en forme.
Dis donc, je vois le métro qui arrive.
On le prend ce coup-là.
Oui.
Dépêche-toi, attends-moi.
J'ouvre les portes. Mais tu as la porte même.
J'ai pas eu le temps de voir, c'est un aspirateur.
Nous vous souhaitons un bon voyage et espérons vous retrouver sur nos lignes.
C'est bien, c'est autre chose panique là. Hein.
Oui, ça va très vite parce que ici tout le monde va assez vite, très calmement mais très vite.
Ouais, mais c'est bien ça aussi.
Qu'est-ce que c'est, Gloop, les deux types qui arrivent là?
Ce sont des SRC.
Des SRC? C'est des contrôleurs?
Sur votre planète, on ira une police.
Ah ouais?
Mais ils font la contrôle aussi.
J'ai rien sur moi.
Non, mais ils font la contrôle pour voir si vous avez besoin de quelque chose. Si vous avez assez à manger, à boire.
Ah, c'est bien.
Si vous avez besoin d'un hôtel.
Ah, mais c'est très différent de chez nous.
Oui, c'est super.
Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous n'avez pas vos papiers d'identité?
Nos papiers d'identité, oh, dis donc, on les a laissés dans le fusée.
C'est très bien. Quel âge avez-vous?
J'ai 15 ans.
C'est parfait. Et vous, monsieur?
Moi, j'ai 17 ans et demi, je passe mon bac.
C'est très bien. Qu'est-ce que vous venez faire sur notre planète?
Ben, on vient... en fait, on a venu comme ça, par hasard, et puis en fait, on aime tellement votre planète qu'on a décidé de rester ici. J'espère que ça pose pas de problème.
Non, bien au contraire, vous êtes les bienvenus. Vous avez besoin de quelque chose, d'argent, de nourriture?
Oh, je crois que ça va, là.
Vous êtes sûr, c'est parfait?
C'est parfait, c'est très gentil.
Alors bonne journée, et si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir.
D'accord, mais c'était bien gentil, vos SRC.
Oui, ils sont bien. Est-ce que vous voudriez avoir les nouvelles d'ici, d'aujourd'hui?
Ah oui, je veux bien.
Alors je peux me brancher radio, car j'ai un computer dans la poitrine. Il faut que je mette les fiches. Et est-ce que je peux tourner le bouton sous mon bras?
Je le tourne.
Bien. Ah, tu me chatouilles.
C'est bon?
Je crois que oui.
Vous écoutez les actualités sur Radio Chip. Aujourd'hui, un grand événement s'est arrivé. Il y a eu les martiens, enfin le chérien de la planète Cher, notre voisin et notre ennemi qui nous ont attaqués. Je passe maintenant la parole à notre commentateur Schnicklipak Nogaka.
Chers auditeurs, aujourd'hui nous avons appris que les Martiens avaient envahi notre planète. Que personne ne panique, mais regagnez vos maisons. Protégez vos enfants et fermez vos volets. Nous ne capitulerons pas.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était une bombe.
Une bombe?
Une bombe?
Mais elle ratisse tout. T'as vu l'église?
Allô, Chip, Alter, à Chip. Chère à Chip, je recevez-vous, parlez.
Vous voyez, là, la planète est en train d'être attaquée par des martiens de la planète Chère. Et nous allons...
Attention, Billy, attention!
Oh, Oui.
Il y a les martiens qui attaquent. Nous allons essayer de retrouver la grande salle. Vous demandez ce qui se passe. Attention,
oui. Est-ce que c'est le boss? Oui. Alors écoutez, nous attendons de vos nouvelles.
Divine, est-ce que tu sais où est le...
Le grand palais? Oui. Je crois que c'est par là.
Oh, attention, là, vite.
Oui.
Allô, dégagez-vous les affaires.
Ferme la porte!
Oui!
Il y a des météorites qui sont lancées!
Oui, ben je sais, je... Ah, quel calme! J'ai l'impression qu'on est à l'abri ici.
Qu'est-ce que vous voulez?
On veut voir le grand sage, si c'est possible.
Le grand sage est très occupé, mais il peut peut-être vous voir pour une petite minute. Suivez-moi, s'il vous plaît.
Je t'attends là, Vinnie.